Pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac.
Allez, de retour sur Radio Grand Lac pour une nouvelle émission de On passe à l'action. Ravi de pouvoir vous retrouver sur les ondes de 92.1. Et d'autant plus parce qu'aujourd'hui, c'est une émission particulière, une émission exceptionnelle, puisque nous allons donner une preview, un petit coup d'œil avant la sortie du magazine « À voir, à lire » des Murmures du Lac de la société RDIMO, gérée par l'exceptionnel Romain Trois-Vallées, dans lequel votre serviteur a eu le plaisir, l'honneur de rédiger un article sur le thème « C'est une baisse des taux ». Non, sœur, c'est une récession. Alors, un magazine exceptionnel, article particulier, il nous fallait un invité de marque et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui François Chanois, gérant de portefeuille de la société de gestion Tiepolo qui nous vient directement de Paris. Bonjour François.
Bonjour Fabien, bonjour à tous les auditeurs et merci pour cette invitation.
Eh ben surtout, merci à toi d'être venu. Tu connais un petit peu, puisqu'on te sait, hein, auditeur de Radio Grand Lac, tu connais un petit peu la particularité de cette émission, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors François, comme tu l'as lu, cet article, on est dans un schéma où il y a eu récemment une baisse des taux courts. Moi, j'ai un petit peu d'argent, François, sur mon livret A et sur mon livret de développement durable. Quel impact cette baisse des taux a et pourrait avoir sur la valorisation de mon épargne?
Merci Fabien pour cette question. Déjà en préambule, il faut peut-être rappeler qu'est-ce que c'est que les taux d'intérêt.
Bien sûr.
Les taux d'intérêt, grosso modo, tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est le coût de l'emprunt de l'argent qui est en général exprimé en pourcentage et sur une période annualisée en général. Et donc cette qualité, ce taux d'intérêt dépend de la qualité de crédit pour une entreprise, par exemple, pour un État, et sa capacité à rembourser justement cette dette. Et actuellement, par exemple, en France, la France emprunte à 3,20. Voilà, sur les marchés financiers, LVMH est à 3,35, qui est une grande société, bien notée aussi, et d'autres plus petites sociétés comme Tereos, que tu connais, qui est une coopérative sucrière, Fabien, est moins bien notée et emprunte forcément à un taux beaucoup plus élevé. Là, je parlais des taux d'emprunt.
Mais donc là, on parle par an. Hein. Donc, du coup, c'est 3,20, 3,35 et plus si affinité par an sur une durée de combien, du coup?
Eh bien, ça dépend. Ça va de... On peut emprunter à court terme, à un an, voire à plus long terme, à 50 ans pour des États, et voire encore plus. Nos amis autrichiens ont été très malins. Pendant le Covid, ils ont émis à 100 ans, à un taux assez attractif qui était de 0,88 parce que les taux étaient beaucoup plus bas.
D'accord, donc ils sont assurés un taux d'emprunt et une ligne de crédit, entre guillemets, sur une durée assez longue avec un taux d'intérêt assez faible.
Ok, exactement.
Malin.
Et le timing était assez opportun. Mais donc, sur ces taux d'intérêt, en fait, il y a un autre... ils évoluent surtout en fonction d'une chose. Tu as parlé des taux courts et en fait, c'est les politiques monétaires des banques centrales qui, justement, influencent ces taux d'intérêt et fixent les taux d'intérêt à court terme. Actuellement, la Banque Centrale Européenne a baissé ses taux. Ils sont passés de 4% à 3,75 sur le taux de dépôt. Alors, il y a différents taux. Pour simplifier, on va donner ce taux-là, qui est le taux de référence et qui impacte derrière les taux courts, comme le livret A ou autre, après qui dépendent aussi de l'inflation, mais... tout est lié et on y reviendra après par la suite sur l'inflation.
Donc là, quand on parle justement d'une baisse des taux, on parle donc d'une baisse des taux courts. On parle donc potentiellement pour moi qui suis un investisseur, puisque tu sais que j'adore le livret A et le livret de développement durable, en tout cas que j'en ai comme tous les épargnants français, potentiellement je peux m'attendre à une petite baisse de rémunération de ces livrets-là.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait le taux lui est fixé via une formule mathématique qui dépend du taux d'inflation et en fait la banque centrale a baissé ses taux parce que l'inflation justement a baissé. On est passé de à peu près un peu plus de 10 si tu te souviens en octobre 2022 et là on est descendu à 2,6%.
Eh bien, décidément, hein. Et donc, c'est baisse des taux. Alors, justement, toujours dans l'idée, moi, en tant qu'investisseur, j'ai des actifs j'ai investi dans des livrets A, dans un livret de développement durable, mais j'ai aussi des actions dans un plan d'épargne action ou dans un compte titre. Quel impact ça a aujourd'hui pour moi en tant qu'investisseur qui possède par exemple des actions L'Oréal, Total, Air Liquide, de voir ces taux courts baisser? Qu'est-ce que ça peut changer pour moi en tant qu'investisseur?
Alors sur l'allocation de portefeuille, déjà il faut comprendre pourquoi en fait les taux baissent.
Allons-y, tout à fait.
Les taux baissent, ils baissent pour plusieurs raisons. Justement, on parlait de cette inflation-là qui a fortement décéléré, et c'est aussi lié à l'économie. L'économie européenne a ralenti. Elle a ralenti pour plusieurs raisons, justement parce que ces taux avaient été relevés assez fortement. Ils avaient été relevés fortement pour contrer cette inflation et justement diminuer la consommation des ménages ou autres qui alimentent cette inflation. C'est pour ça que les taux, par exemple aussi du livret A, a augmenté. Moi, si j'ai de l'argent, finalement, plutôt que le dépenser tout de suite, je me dis, bah, je vais le placer à 3% plutôt que consommer, et mécaniquement, ça diminue l'inflation. Donc ça, c'est une des conséquences qui est importante de pourquoi les taux avaient augmenté.
Donc quelque part, l'idée, c'était, comme tu viens de nous le dire, de baisser là. Enfin, donc on a augmenté les taux parce qu'à un moment donné, ce qu'on voulait, c'était plutôt qu'il y ait de la thésaurisation, c'est-à-dire que les gens soient plutôt en position d'investir leur liquidité plutôt qu'aller le consommer. Et maintenant que l'inflation se serait un peu réduite, tout est le choix du conditionnel, puisque vous connaissez la position de votre serviteur sur l'inflation, mais blague à part, là aujourd'hui je baisse les taux, ça veut dire que moi qui suis chef d'entreprise, je vais me retrouver possiblement dans l'idée de pouvoir peut-être emprunter davantage pour pouvoir poursuivre mes investissements. Et donc est-ce que ça pourrait avoir, cette baisse des taux, un point favorable sur les investissements des entreprises? Comment toi tu verrais les choses?
Oui, justement, c'est cette baisse de taux est une bonne nouvelle. Cette baisse de taux est une bonne nouvelle pour l'économie en général, qui est une machine bien apathique depuis maintenant plutôt 24 mois. Donc ça va permettre de justement redynamiser l'économie pour plusieurs raisons, sur trois types d'individus, de consommateurs. Il y a vous et moi en tant qu'individus, il y a les entreprises, tu le disais très bien, et les États. Donc il y a trois agents économiques qui sont impactés. Les ménages, eux, ils vont pouvoir soit réemprunter pour consommer ou plutôt peut-être faire un achat immobilier parce que les taux baissent et que le marché était figé, ou revoir son taux sur le crédit immobilier. Donc ça, c'est le premier point du point de vue du consommateur.
Donc cette baisse des taux, c'est une très bonne nouvelle.
Voilà, exactement. Pour l'entreprise, tu le soulignais, c'est la capacité justement d'investir de nouveau parce qu'il y avait des projets qui n'étaient pas rentables avec des taux aussi élevés. Parce que il faut emprunter pour investir, justement pour acheter des nouvelles machines. Ça redonne de la marge de manœuvre. Je pense que toi qui connais bien le métier et la banque, tu dois avoir des entrepreneurs localement qui réfléchissent ou qui avaient mis en stand-by des projets d'investissement, voire de la croissance externe.
Bien sûr.
Pour se développer.
Bien sûr, puisqu'un coût de crédit un petit peu plus faible, ça permet évidemment de rendre un peu plus rentable des projets, puisque si vous investissez en tant que boulanger dans un nouveau four qui peut générer et vous permettre de générer une croissance économique de 4 à 5 % de votre chiffre d'affaires ou de votre résultat net, c'est sûr que si vous payez votre crédit 6 ou 7%, vous allez peut-être pas le faire. Donc ça, c'est effectivement un très bon point. Alors, on a reçu ici dans cette émission, parce qu'on reçoit que de la qualité, on a reçu Frédéric May, le greffier du tribunal de commerce de Chambéry, qui nous parlait, pour faire le lien pour tous les auditrices et auditeurs, et puis pour toi aussi, qui nous parlait du nombre de défaillances et de procédures collectives qui étaient en augmentation dans la région. Donc, on comprend finalement que la baisse des taux, c'est une manière aussi d'aller soutenir l'économie. C'est une bonne nouvelle parce que ça vient injecter du sang neuf. On sent aujourd'hui cependant pour certaines sociétés purement françaises, c'est-à-dire avec un chiffre d'affaires français, c'est quand même pas facile. On voit les niveaux, tu parlais justement des opérations de croissance externe ou des transmissions d'entreprises, on ressent qu'il y a des sociétés qui aujourd'hui souffrent, c'est-à-dire ont un niveau de résultat net qui est en train de baisser, et notamment à cause du coût de l'énergie. Comment aujourd'hui, toi, tu perçois un petit peu la stratégie énergétique en Europe? Et est-ce que, toujours dans un investisseur, est-ce que ça a un impact dans l'allocation d'actifs qu'il devrait considérer?
Oui, ça a un impact très important, justement. Nous, notamment chez Tiepolo aussi, on essaie de chercher des sociétés internationales qui ne dépendent pas seulement d'un secteur d'activité ou d'une zone géographique. Et donc, on essaie de diversifier, justement, les clients, mais aussi les sources d'approvisionnement ou d'énergie. Et donc, tu le disais, le coût de l'énergie a un impact vraiment assez significatif. On sait qu'aux États-Unis, ils ont bénéficié, justement, du pétrole de schiste et d'une énergie beaucoup moins cher. En Europe, nous, avec en plus ce qui c'est la guerre en Ukraine et la décision de ne plus importer du pétrole et du gaz russe, mécaniquement, le prix du gaz a été plus important en Europe, même si maintenant c'est en train de se calmer. Mais on a eu cette phase assez compliquée et donc on a une compétitivité des entreprises européennes qui était plus dure, des pressions sur les marges et le coût de l'énergie, justement, a alimenté cette inflation qu'on essayait de combattre fortement.
Exactement. Alors, je suis tout à fait en phase avec toi, Aligné. Hein. Quand on regarde les deux blocs, enfin les trois blocs de pays, même si c'est un peu réducteur, on a d'un côté les États-Unis. Les États-Unis, vous prenez leurs trois plus grosses boîtes pétrolières cotées, Exxon, Chevron, ConocoPhillips. C'est quasiment 800 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc clairement deux fois LVMH, là où nous on n'a pas non plus en termes de sociétés cotées dans le pétrole ce niveau-là. Et quand vous regardez de l'autre côté, donc plutôt du côté de l'Asie, on est effectivement avec un nombre significatif et croissant de sociétés dans le domaine du charbon qui leur donne d'un côté comme de l'autre un avantage concurrentiel assez fort. Donc du coup, tu parlais d'allocation d'actifs, de tenir compte de ce coût de l'énergie et tu parlais d'aller diversifier un petit peu les sources d'investissement. Si on va un petit peu plus loin, pour tenir compte de ce point-là, qu'est-ce qui serait bon à faire? Si on devait donner quelques astuces à nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'on leur donnerait par rapport à ce sujet de l'énergie?
Eh ben, par rapport à ce sujet de l'énergie, justement, il va falloir aller chercher des sociétés à l'international avec une visibilité sur la croissance qui est très, très importante. Et c'est cette visibilité-là, dans un contexte économique encore incertain, une trajectoire sur l'inflation incertaine, où il est important justement d'investir. Dans les sociétés, dans le domaine de la technologie notamment, on a une visibilité assez importante dans les semi-conducteurs. Sur la santé également, on a une très bonne visibilité dans les traitements contre l'obésité notamment. On a un boulevard devant nous pendant quasiment 10 ans où des investissements pour les laboratoires pharmaceutiques sont faits et des produits innovants sont trouvés pour justement répondre à ces maladies ou autres. Donc, c'est une possibilité d'investissement qui est intéressante, d'autant plus qu'on ne sait pas encore exactement où l'économie va aller par rapport à la baisse des taux, justement, Fabien.
Exactement. Donc, tu étais en train de nous citer, sans nous les citer, parce qu'on n'est évidemment pas là pour faire du conseil en titre vif, on est juste là pour agiter des idées, mais les auditrices et auditeurs reconnaîtront que François a parlé de plusieurs sociétés indirectement de semi-conducteurs, parmi lesquelles vous retrouverez les géants hollandais ASML, une des sociétés américaines dans le domaine qui est Lam Research aussi, que connaît très bien François, et pour le conseiller à ses clients régulièrement. Et puis évidemment, le géant et les deux géants dans l'obésité et dans le traitement de l'obésité qui sont Novo Nordisk et Eli Lilly. Avec en parallèle, ce que tu nous dis, c'est d'aller effectivement chercher des boîtes qui produisent un peu partout et qui vendent partout avec des très hauts niveaux de marge, puisque toutes les sociétés qu'on a citées ont des niveaux de marge d'EBITDA qui sont de l'ordre de 50%. Alors pour revenir sur le fin de ta phrase, c'est vrai que le thème de cette émission, hein, pour faire écho à la sortie du magazine Les Murmures du Lac de l'équipe RD Immo de Romain Trois-Vallées, c'était c'est une baisse des taux, non sœur, c'est une récession. On a vu le côté très positif de la baisse des taux que tu nous détaillais. Quel pourrait être le côté négatif de cette baisse des taux en Europe? Comment tu pourrais, toi, l'appréhender de ce point de vue-là pour un épargnant?
En fait, il y a deux points en fait dans cette question-là. C'est-à-dire que maintenant, ils ont baissé les taux. Mais après, la prochaine étape, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de baisser les taux? Est-ce qu'on attend encore? Et donc, en fait, la Banque Centrale Européenne, qui, elle, détermine donc les taux courts, va avoir, et un risque, en fait, elle est prise en étau, un petit peu. C'est un équilibre très, très,
la, très, la, très compliqué. La Banque Centrale qui est prise en étau, alors qu'elle détermine les taux d'intérêt. Quel humour! Quel humour. En revenons à des choses sérieuses. Effectivement, tu as raison, elle est face à un choix presque cornélien d'ailleurs.
Et
allons-y.
Donc, c'est, est-ce qu'on garde des taux à ces niveaux-là, quitte à être trop restrictif? Parce que, rappelons, le combat principal, c'est l'inflation. Dans les statuts de la Banque Centrale, la stabilité des prix est le premier objectif de la Banque Centrale Européenne. Et donc, c'est est-ce que je garde ces taux actuellement sur ces niveaux-là, quitte à être trop restrictif, parce que j'ai encore des doutes sur le niveau d'inflation. L'emploi est toujours très, 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 dynamique et autres. Il y a des hausses de salaire. On parlait du coût de l'énergie. Peut-être que ça peut encore se répercuter par la suite et donc bien alimenter sûr. L'inflation. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on les garde trop tôt, trop haut? On les garde trop longtemps, pardon, trop haut. Quitte à justement freiner trop l'économie, on l'a vu quand même, ça a ralenti l'inflation, mais également ça ralentit la consommation et l'économie. Et le deuxième point, donc, c'est de finalement faire continuer à baisser ses taux, parce qu'en fait, les taux actuellement sont élevés. Normalement, les taux sont plutôt autour, les taux neutres pour une inflation qu'on cherche à atteindre autour de 2%. C'est plutôt des taux qui vont être proches justement de ce niveau d'inflation, autour de 2%. Là, actuellement, on est encore à 3,75. Donc, si on baisse ces taux, parce qu'on est confiant sur l'inflation, il faut être sûr que l'inflation ne reparte pas. Et Fabien, je crois savoir que tu connais bien l'historique justement sur les taux. Et aux États-Unis, qu'est-ce que tu peux me dire sur le second tour d'inflation qu'on a vécu précédemment?
À l'arroseur arrosé, c'est la réponse du berger à la bergère. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est intéressant de remettre, et merci pour ta question, parce que c'est intéressant de remettre aussi en perspective l'évolution des taux d'intérêt par rapport à ce qu'on a vécu ces dernières années. Les auditrices et auditeurs avisés ou simplement les professionnels de l'investissement comme toi savent que dans les années 70, on vit quand même une inflation terrible, hein, puisque c'est le moment où les pays du Moyen-Orient décident d'augmenter très fortement le prix du baril de pétrole, et on se retrouve avec une inflation qui est stratosphérique, qui amènera d'ailleurs le marché actions à souffrir assez terriblement, avec des baisses de moins 40, moins 50%. Et on mettra du temps, hein, d'ailleurs, et c'est intéressant la comparaison avec ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on mettra beaucoup de temps à accepter qu'il y a de l'inflation. Et on pourrait se poser la question si la situation n'est pas la même aujourd'hui, d'ailleurs, puisque on discute entre professionnels, et tu as tout à fait raison, François, hein, je suis en phase avec toi, l'inflation réelle aujourd'hui, elle serait affichée aux alentours de 2%, enfin en tout cas l'inflation telle qu'on la calcule. Parfois, quand on va faire nos courses, on a le sentiment que le filet de bœuf que l'on va manger tout à l'heure dans un super restaurant d'Aix-les-Bains va coûter probablement un peu plus que 2% qu'il y a quelques années. Donc, cela étant dit, dans les années 70, il faudra du temps pour augmenter les taux de la Banque Centrale pour accepter qu'il y a de l'inflation. Et Paul Vaucler, conseillé alors par Milton Friedman, prix Nobel de l'économie, montra alors ses taux d'intérêt à 18% en 1978 pour contrer l'inflation. Donc premier point, là où Margaret Thatcher montra ses taux d'intérêt, elle a plus de 25% pour contrer l'inflation. Donc gardons quand même bien en tête qu'aujourd'hui, quand on annonce des taux d'intérêt élevés, ils sont élevés par rapport à ce que nous, on a connu, mais ils restent relatifs par rapport à ce qu'il y a eu dans l'histoire lorsqu'il a fallu vraiment contrer l'inflation. Donc c'est vrai que c'est un peu le sujet de savoir, quelque part, est-ce que il y a de l'inflation vraiment structurelle? Est-ce qu'elle va continuer? Dans ce cas-là, augmenter les taux, qu'est-ce que ça va impliquer? On va en discuter ensemble, notamment sur le lien entre taux court et taux long. Et puis après, ne rien faire et possiblement la laisser s'enflammer. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur un point qui est très important sur ces taux. Donc, en gardant bien en tête qu'il faut distinguer les taux courts, les taux de la Banque Centrale, taux directeur, et puis les taux longs, qui sont les taux de l'obligation d'État française, du Bund allemand, qui sont les taux d'intérêt lorsque l'État emprunte sur des durées assez longues. On est dans une phase politique qui pourrait être potentiellement agitée. Quel serait le risque si demain on avait un peu d'agitation sociale en France, un nouveau mouvement des Gilets jaunes, des révoltes, des manifestations? Quel serait le risque pour moi en tant qu'épargnant? Parce que on parle beaucoup d'attaques potentielles sur la dette française. Comment toi, en tant que professionnel de l'investissement, ou toi, comment toi, d'une manière générale, comment toi t'appréhendes ce sujet-là et qu'est-ce que tu conseillerais à tes clients sur ce sujet-là?
Donc tout d'abord sur les taux longs, comme tu disais et on l'indiquait, ces taux longs sont fixés justement par le marché et ça dépend de la capacité d'un État à rembourser ses dettes et à créer de la valeur justement et à investir. Donc si le marché se rend compte qu'il y a une ambiance sociale, il n'y a pas de ligne directrice parce que justement le pays va être figé, ces taux longs risquent d'augmenter un petit peu. Et donc l'augmentation des taux longs va faire justement peser un poids un peu plus important du coût de la dette. Le coût de la dette française pourrait augmenter un petit peu plus. Aujourd'hui, je disais, on était à 3,20 à peu près. Oui, ça pourrait augmenter un petit peu. Mais je tiens à te rappeler que le total de la dette française est sur un niveau moyen qui est en fait ce niveau moyen-là. C'est-à-dire qu'on est le stock total de dette français est autour de 3,20. Donc en fait, on est dans un niveau plutôt historique, classique, même si précédemment les taux étaient beaucoup plus bas. Pour rappel, par exemple, dans les années 90, la France empruntait à 10%. Dans les années 2000, ce taux est descendu à 5,5%. En 2010, on était sur ces niveaux-là, 3,20. Et le Covid avait fait qu'on était descendu vraiment très très bas mené par les banques centrales.
Tout à l'heure, ce que tu veux nous dire en substance, c'est ça, c'est très important. C'est il est possible que les taux auxquels la France emprunte sur les marchés viennent à augmenter. Il est possible, hein, c'est une probabilité. Maintenant, gardons en tête que par rapport au niveau auquel on emprunte au coût de la dette moyen de la France, puisque la France emprunte un peu tous les jours, hein, et emprunte depuis quelques mois, finalement, cette augmentation serait diluée dans un ensemble de dettes, et il n'est donc pas évident, puisque mettons des mots sur les choses, il n'est donc pas évident que ça ajoute une surcharge pour la France financière en tant qu'État aussi notable que ça. Puisqu'au fait, aujourd'hui, le risque, c'est, encore une fois, on met des mots, c'est que je me retrouve, moi, en tant qu'État français, avec un service de la dette, c'est-à-dire des intérêts à payer, qui soient trop fort et qui m'amène donc à avoir des difficultés pour les payer et donc pour les financer. Et toi, tu nous dis, gardons en tête que la dette moyenne de la France, elle est composée de toute une série d'échéances et que même si ça augmente, c'est un peu comme si je décidais de mettre une petite goutte de poison dans 10 litres d'eau, en fait. C'est un
Exactement.
Peu ça, le schéma.
Ça augmente un petit peu au fur et à mesure que les remboursements sont faits.
Donc, il y aura de l'inertie.
Exactement. Et donc, tu parlais justement de cette dette moyenne. Cette dette moyenne, elle est grosso modo de 8 ans. C'est-à-dire qu'il y a de la dette à court terme, il y a de la dette à très long terme. On parlait de l'Autriche qui avait emprunté à 100 ans. La France, elle va plutôt jusqu'à 50 ans. Mais donc, en moyenne, en fonction des montants, on est autour de 8 ans. Justement, donc il y a une certaine inertie, c'est-à-dire que justement il y avait une inertie pour baisser ce stock moyen quand les taux étaient bas, quand la France se refinançait, et donc là c'est une nouvelle inertie mais à la hausse, mais donc c'est assez lent comme phénomène, donc il faut pas non plus s'inquiéter. C'est la trajectoire qui est importante aussi dans le déficit et les dépenses de la France. Et on parle souvent en se disant ah mais la France elle est très très endettée. Oui, elle est très endettée, on est autour de 110 à peu près % du PIB. Ce qui est beaucoup historiquement et autres. Si tu te souviens bien, la Grèce par exemple a été très très fortement endettée. Quand je dis très fortement, on était autour de 220% du PIB. Alors à travers, c'est sûr, des cures d'austérité assez lourdes, la trajectoire a été fortement modifiée. Et en plus, ils ont bénéficié. C'est une économie qui est très touristique, la Grèce. Et donc, en fait, la production du pays, le PIB, produit intérieur brut du pays, a fortement augmenté avec la reprise post-Covid ou autre. Mais il y a eu cette cure d'austérité aussi qui a été importante. Donc, les gens se sont serrés la ceinture aussi. Donc, je dis pas non plus que je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais on est obligé aussi de se serrer la ceinture quand on a un stock de dettes assez important pour éviter que justement les taux augmentent trop.
Donc là, c'est très intéressant ce point de vue et l'angle que tu prends en remettant finalement des chiffres sur tout ça, en expliquant qu'effectivement, on a 3000 milliards de dettes, un peu plus aujourd'hui. C'est effectivement quelque chose d'assez colossal puisqu'on rembourse chaque année à peu près 400 milliards de montant de dette.
Oui, donc intérêt plus nominal.
Exact, intérêt plus capital, juste. Donc c'est évidemment des montants conséquents puisqu'on rembourse chaque année quasiment l'équivalent d'un LVMH. Puisque l'UMH fait 400 milliards. Promis, je ne suis pas sponsorisé par Bernard Arnault, même si s'il m'écoute, on serait ravis évidemment d'avoir son soutien sur Radio Grand Lac. Blague à part, tu nous rappelles effectivement que le niveau d'endettement de la France, si on le situe par rapport à des pays qui ont des difficultés et qui ont fait défaut, t'aurais pu citer l'Argentine, mais la Grèce, c'est très bien aussi, et dans ces niveaux d'éléments-là.
Et la Grèce est redescendue justement avec cette reprise aussi de la croissance en Grèce. On est passé, justement, maintenant, on est autour, on va atteindre 140% du PIB. C'est-à-dire qu'on était à 220 et en à peu près 5 ans, même pas, on va réatteindre le niveau de la France. Et donc, c'était considéré comme un État en quasi-faillite. Heureusement aussi, la Banque centrale est là en garde-fou un petit peu. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Mario Draghi et sa fameuse phrase de « whatever it takes » en anglais qui signifie...
Ça donne quoi en savoyard ?
C'est-à-dire que, en gros, il fera tout son possible pour justement préserver l'euro. Et donc, ça a été fait, justement, la Banque centrale a aussi contenu, justement, les taux d'intérêt en achetant de la dette, en augmentant son bilan sur de la dette grecque pour que, justement, l'orage passe et que la trajectoire économique grecque reprenne la bonne direction et avec une austérité aussi un petit peu plus importante sur le pays.
Donc du coup, cette baisse des taux plutôt très favorable dans ce que tu proposes, en nous rappelant que la baisse des taux elle est là pour relancer l'économie, que c'est quelque chose de très positif, que même si on continue à s'endetter un petit peu en France, bah, au final on a encore un petit peu de marge et que par rapport historiquement aux autres pays, et ben on est encore loin des standards de la Grèce. Petit B, que comme on l'a vu ensemble quand on a refait l'historique des années 70, ni toi ni moi n'étions nés d'ailleurs quand Paul Vaucler a monté les taux d'intérêt à 18%, on le regrette, eh bien on est à des niveaux de taux qui restent pour l'instant respectables. Dernière petite question, donc l'objet de cette réunion et l'objet de cette petite échange uniquement entre nous d'ailleurs, hein, petit échange complètement confidentiel, c'était de se dire c'est une baisse des taux, non sœur, c'est une récession, et en quelques mots ou en quelques lignes, en quelques minutes, si demain les taux montaient, qu'est-ce que ça aurait comme impact aujourd'hui sur l'économie en France, et si demain ou en Europe, si on montait les taux directeur de la Banque centrale.
En fait, si les taux remontaient, ça serait pour une raison, ça serait par rapport à l'inflation, justement, un second tour d'inflation. Tu citais tout à l'heure Milton Friedman, et ce qu'il a dit, c'est un monétariste, Milton Friedman. Il indique que l'inflation...
Donc pour ceux qui nous écoutent, puisque nous, on est en train de faire la discussion des techniciens du sport dans les tribunes, mais monétariste, donc c'est quelqu'un qui place la monnaie au centre de toute décision d'investissement et économique et qui considère que la monnaie, c'est la quintessence du sujet.
Exactement. Et il a dit, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Et je pense que tu vas voir où je veux en amener, pour être plus pratique et plus clair dans mon explication. Vous connaissez tous le jeu du Monopoly.
Exact.
Au début, la banque, elle vous donne de l'argent. On va dire qu'elle vous donne 100 au début, et puis vous jouez. Vous achetez justement les maisons en faisant des enchères. Mais si au début, je vous donne plutôt 200, bah, mécaniquement, les enchères vont augmenter plus. Et donc, on va créer de l'inflation par rapport justement à une quantité de produits qui va être plus ou moins stable. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir acheter plus de maisons parce que la quantité est limitée. Donc, le fait de mettre plus d'argent, entre guillemets, sur la table et donc d'imprimer de la monnaie ou autre, ou de baisser ses taux, parce qu'en baissant ses taux, on réinjecte de l'argent dans l'économie, ça crée de l'inflation. Donc, ça, c'est une des raisons. Et puis, l'inflation, elle peut aussi avoir des sources exogènes sur l'énergie ou autre. Paul Volcker, à l'époque, c'était aussi par rapport au choc pétrolier.
Exactement.
Donc, en fait, si on avait un deuxième tour d'inflation, que ça soit par aussi de l'énergie, non, une inflation importée pour de l'énergie ou même salariale, il y a un risque un petit peu sur de perte en capital sur les obligations parce que derrière, les taux réaugmentent, les gens peuvent acheter des obligations avec des rendements plus élevés. Donc, il peut y avoir un peu de perte sur les obligations. Donc, voilà. Mais c'est pas le scénario central actuellement. Même si ça peut être une option qu'il faut avoir en tête, se dire si l'inflation repart, les taux pourront remonter et donc là, il faudra faire attention. Mais pour protéger son capital à ce moment-là, la bonne solution aussi, c'est d'investir dans les actions, justement. Parce que les actions bénéficient justement de la hausse de l'inflation parce qu'elles ont cette capacité, quand on choisit des sociétés de qualité, avec une capacité de fixer les prix. En anglais, on dit pricing power, excuse-moi pour cet anglicisme, mais cette capacité à fixer les prix aux clients, mais également à ses fournisseurs. Donc, on va chercher des entreprises comme ça, qui ont la capacité de bien évoluer dans un environnement où l'inflation pourrait repartir à ce moment-là et qui ont une bonne visibilité sur la croissance.
Alors que les taux montent ou que les taux baissent, le choix pour un investisseur, c'est donc de favoriser le marché action par sa capacité, justement, comme l'a dit François, à prendre l'inflation, à l'absorber et à créer de la valeur pour un investisseur. Comme François l'a dit, lorsqu'on était dans les années 80, les taux d'intérêt en France d'une obligation française, ça devait être entre 15 à 17%. Donc on pouvait se retrouver avec une allocation d'actifs 50% actions, 50% obligations et gagner de l'argent. Donc la récession économique, c'est pas évident, mais il faudra le surveiller et surveiller l'évolution de cette inflation qui finalement est décisive pour la suite. Merci pour cet échange, François. Tu connais la fameuse phrase, une minute pour convaincre à la fin de chaque émission. Tu as une minute pour nous parler de ta société, Tiepolo, que l'on remercie encore une fois de t'avoir mis à disposition, Société de Gestion Parisienne. C'est quoi Tiepolo alors ?
Merci Fabien. Donc oui, je suis gérant de portefeuille chez Tiepolo. Tiepolo, c'est une société de gestion parisienne, entrepreneuriale et indépendante, avec le capital qui appartient justement à ses associés fondateurs et également aux employés. Nous gérons 2 milliards d'actifs sous gestion. Nous sommes 35 personnes. Nous gérons 1800 familles. Et nous ne sommes pas intermédiaires, nous sommes spécialisés justement sur les actions, les titres vifs en direct.
Et avec une réelle expertise sur les marchés financiers et les investissements dans les actions, mais pas que. C'était François Chanois et Fabien Giroux en direct de Radio Grand Lac. On vous dit à très vite.
Merci Fabien et merci aux auditeurs.
La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1.